Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, au Café Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Au Café Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, dans le Kinshasa.
Bonjour, M. Jésus Daniel Kachama. Bonjour aussi à l'invité. J'ai trois petites questions à adresser à notre invité du jour.
Oui.
Oui.
Ouais, la première question est de savoir quelle est la différence qui existe entre l'épilepsie ainsi que l'hypertension. Et puis la seconde question, c'est le monsieur là qui souffre de l'épilepsie, si il tombe malade, si vous voulez aller lui rendre service, les personnes disent que non, il ne faut pas aller lui rendre service parce que les maladies là sont contagieuses. Est-ce que ça peut se contaminer de la sorte? Et puis la dernière question, est-ce que il y a des considérations quand les personnes qui ont l'épilepsie, on peut avoir certaines conditions qui disent qu'il ne faut pas se mettre là où il y a du bruit, il ne faut pas se fâcher.
Oui. Merci Gabriel. Docteur Lélo.
Oui, j'ai bien compris ces trois questions. Oui. Bon, je vais commencer par la plus facile. C'est que l'épilepsie n'est pas une maladie contagieuse. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes à côté de l'épilepsie que vous attrapez l'épilepsie. Ça, c'est le 1 de 2. Quelle différence y a-t-il entre l'épilepsie et l'hypertension artérielle? Bon, l'hypertension artérielle, c'est une maladie cardiovasculaire. En fait, ce sont les vaisseaux. Je comparais l'organisme à vous voyez, par exemple, les tuyaux de la régie des eaux qui passent sous la terre.
Oui.
Voilà. Et les vaisseaux sont comparables aux tuyaux là, qui amènent de l'eau. Et naturellement, ils sont branchés sur le cœur, parce que c'est ça le système cardiovasculaire. C'est l'hypertension, c'est une maladie du système cardiovasculaire. Tandis que l'épilepsie, c'est une maladie du cerveau. Et je l'ai dit, ça c'est un terme tout à fait banal, quoi, mais il est vrai que les hypertendus, à cause du fait qu'il y a des vaisseaux dans le cerveau, ces vaisseaux peuvent être endommagés et à la longue amener des dégâts sur le tissu cérébral, donc sur le neurone. Donc on peut souvent voir comme complication de l'hypertension sur le cerveau et des crises d'épilepsie parce que je n'ai pas dit qu'il y a ce qu'on appelle parfois l'hypertension essentielle, on peut avoir l'hypertension symptomatique, quelqu'un qui a fait un accident vasculaire cérébral. En fait, c'est un vaisseau du cerveau qui a posé problème, soit parce qu'il s'est bouché, soit parce qu'il a éclaté, et là on parle donc de l'accident vasculaire hémorragique, de l'accident vasculaire ischémique, et les tissus environnants vont subir des dégâts qui peuvent constituer des foyers épileptogènes.
Voilà, donc l'épilepsie n'est pas une maladie contagieuse. Hein.
Non, elle n'est pas une maladie contagieuse.
Ouais.
Alors, qu'est-ce que... La troisième question que je n'ai pas bien comprise, mais enfin, il parlait des considérations. J'ai pu comprendre qu'il demandait si il y a des choses qu'on peut déconseiller à un épileptique ou autre chose comme ça. Bon.
Oui, voilà.
En général, nous, les neurologues, nous faisons en sorte que l'épileptique puisse vivre comme tout le monde. Naturellement, il y a des règles d'hygiène, des éthiques que nous conseillons. Par exemple, nous demandons à un épileptique de dormir le plus possible, donc de ne pas se fatiguer. Il y a de ce qu'on appelle parfois de l'épilepsie réflexe, parce qu'il y a des gens qui sont sensibles aux rayons, des stimulus lumineux.
Oui.
Et donc, par exemple, nous déconseillons à ces gens de regarder la télévision. Vous voyez, quand une chaîne se perd, les images deviennent pas très correctes, là, il y a parfois des sentiments qui sortent des écrans de ta télévision.
Mmh.
Eh bien, ces sentiments-là sont des stimuli pour le cerveau et parfois peuvent déclencher des crises compulsives.
Alors,
le stress, quand un épileptique est stressé, il a un événement qui fait qu'il soit dans une crainte de stress, son seuil de convulsivité peut baisser et alors il peut à ce moment-là confesser. Mais il n'y a pas des grands interdits en général pour pouvoir qu'on donne à un étudiant. Nous, les traitons de manière à ce qu'il puisse mener une vie qui soit le plus avancée possible à la vie en général.
Crise d'épilepsie, quels sont les gestes qui sauvent? Docteur Lelo Malanga, neuropsychiatre et notre invité ce matin. Christian Bourquetier nous appelle de Mandaka. Et Benjamin Nyamboué est en ligne depuis Kananga. Vous voulez participer aussi? Composez le 081-890-6394.
Votre connexion internet est trop lente? Radio-Okapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes mails. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes mails, c'est gratuit. Radio-Okapi.net à votre service.
Christian Bourquetier, vous êtes en Bandaka, bonjour.
Bonjour, monsieur Jésus Daniel Kachama, bonjour à notre invité ainsi qu'à tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment.
Oui, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la crise d'épilepsie?
Oui, j'ai une seule question à poser à notre invité. D'abord, je voudrais lui dire que je connais quelqu'un qui est ici à Yaïtlague, qui habite sur notre avenue. Il souffre des épilepsies, mais il présente un cas tout à fait particulier. Parce que ce monsieur, quand il tombe, après 30 minutes, il se réveille. C'est-à-dire, comme aujourd'hui, le vendredi, s'il tombe le matin, il va souffrir tout le long de ce vendredi. C'est-à-dire, il tombe, il se réveille, à un moment donné, il tombe, il se réveille. Donc, mais lorsqu'il était parti à un centre de santé des soeurs religieuses, on lui a donné un lot important de médicaments. Mais quand il prend les médicaments, souvent, il ne tombe pas pendant un mois, il est toujours normal. Et on lui a défendu de prendre la boisson alcoolique et certains poissons qui ont un peu des écailles. Alors là, je voudrais demander à notre invité, est-ce que pour ces métiers, est-ce qu'ils ont eu déjà des cas pareils? Alors, quand ils prennent les médicaments, ils ne souffrent pas. Est-ce que cette maladie, à la longue, peut être éradiquée ou ça va continuer toujours à souffrir?
Merci, Christian. Benjamin Nyamoué de Kananga, bonjour. Benjamin, bonjour. Benjamin, vous êtes à Kananga, bonjour. Voilà, il n'est plus en ligne, il va peut-être nous rappeler plus tard. Docteur Lelo.
Voilà, je vois que notre ami de Mbandaka décrit une crise, effectivement. Donc, ce type de crise, nous appelons ça état de mal épileptique. C'est quoi? Donc, ce sont des crises qui surviennent chez un individu, mais l'individu n'a pas le temps de reprendre conscience après une crise. Et les crises se succèdent. Donc, c'est là, nous appelons cela un état de mal épileptique. C'est une urgence neurologique pour nous. Et donc, ce sont des crises qui sont absolument cachées. Alors, si quelqu'un a besoin de telle crise, il faut qu'on l'amène à l'hôpital. Parce que ce sont des crises qui peuvent mettre facilement la vie de l'individu en danger. Mais quand il arrive à l'hôpital, oui. Il y a des gestes que nous avons posés. Par exemple, il y a des médicaments qui sont indiqués pour casser cet état de mal épileptique. Et dans l'état qui est le sien, il le dit bien, donc il est allé à l'hôpital. C'est-à-dire qu'on a fait un certain nombre d'examens, ils ont diagnostiqué le syndrome qui les monsieur présente, et ils ont mis un traitement en place et ils se sont bien rendus compte que les crises, quand il est sous traitement, les crises n'ont pas la même fréquence. Donc ça, c'est une urgence médicale et les médecins savent comment nous traitons habituellement un état de mal épileptique qui n'est pas à la portée de tout le monde dans la rue.
Oui.
Donc il y a des médicaments pour cela et nous arrêtons les crises et nous attendons cette compétence dans la personne de prendre sa conscience. Et bien nous les mettons sous un traitement d'un traitement comme c'est le cas pour ces malades-là et ils prennent ces médicaments, ils peuvent retourner à domicile.
Oui, Christian, on nous révèle qu'il a demandé à ces médecins de ne pas croire.
Je crois.
Oui, la boisson alcoolisée.
Nous déconseillons les boissons alcoolisées parce que ce sont des. Bien sûr que la boisson, l'alcool, en fait, est un antidépresseur, donc ça déprime l'activité cérébrale, mais ça commence toujours par une phase d'excitation. Or, l'épilepsie, en fait, c'est une hyperactivité du neurone. Donc, tout ce qui est de nature à augmenter l'activité cérébrale doit être déconseillé.
Voilà, et il a parlé de poissons avec écailles. Est-ce que
les poissons avec écailles, non, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui excite le système. Mais l'alcool, oui, toujours parce que donc, tout ce qui est stimulant, psychostimulant, doit être déconseillé chez un épileptique.
Alors, Gabriel Descalim avait dit tout à l'heure que chez eux, lorsqu'une personne épileptique tombe, on leur dit toujours de ne pas l'approcher, de ne pas la toucher, sinon il y a beaucoup de risques. Hein.
Non, il n'y a aucun risque, au contraire, il faut lui venir en aide parce qu'il est inconscient. J'ai commencé par dire que cette maladie n'est pas contagieuse, donc il n'y a absolument aucun risque à le toucher. Il faut l'aider, le mettre à un endroit où il peut respirer parce qu'il a, il sent souvent, il fait beaucoup de il a de la salive pleine dans la bouche, il écume, et il faut le mettre dans une position qui puisse lui permettre d'écouler l'écume.
Quelle est la bonne position?
Reprendre connaissance.
Quelle est la bonne position?
Un décubitus latéral. J'ai dit donc, c'est pas bon. Vous voyez, vous le mettez d'un côté.
Oui.
Et je dis, donc il a. Bon, il y a faut que soit pour les gens comme ce qu'on appelle le décubitus latéral. Donc nous mettons les malades. En principe, il faut lui mettre sa main derrière sa nuque. Comme ça, il a une tête un peu penchée sur le côté.
La main derrière la nuque.
Et il peut faire écouler la salive qui est dans sa bouche. Et il faut dégager en fait les voies respiratoires parce qu'il a besoin de respirer à ce moment-là. Il est tout en état inconscient.
Donc, placer la main, une main derrière la
nuque. Sa main, une de ses mains, sur, en dessous de sa tête, oui. De manière à avoir une position d'équilibre pour la tête. Et la position de culture latérale, donc vous vous mettez sur, comme on dit latéral, vous le mettez des côtés.
Oui.
Il a le dos. Tournez soit vers vous, soit contre vous, mais un de ces côtés touche le sol. Et la main de ce côté-là que vous avez, vous mettez sous la tête et il a la tête penchée. Et ici, donc, il peut y avoir un écoulement facile de la salive qui est dans la bouche.
Voilà. Alors, si elle tombe quelque part, cette personne, et que les passants interviennent, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester là jusqu'à ce que la crise va prendre.
Je vous ai dit à peu près le temps de la crise. Hein.
30 minutes.
30 minutes au plus tard, la crise se termine.
Oui.
Et la personne, bon, après souvent il se réveille, vous voyez qu'il a l'air un peu hébété, et vous vous posez des questions sur là où il reste, s'il y a quelqu'un, il peut l'amener, s'il y a quelqu'un, souvent ce sont des malades déjà traités, qui peut à la rigueur aller voir son médecin, mais souvent quand la crise est terminée, elle est terminée, à moins qu'il présente un état de mal comme notre ami de Mandaka l'a décrit là.
Oui, mais pendant la crise, on peut la mettre dans le véhicule et l'amener rapidement à l'hôpital.
Mais en principe, si la crise se décide, c'est une crise qui se déclenche, vous allez l'amener à l'hôpital. Mais quand vous arrivez à l'hôpital, ce sont ces gestes-là dont je vous ai parlé que nous posons.
Oui.
Donc nous les mettons à l'équilibre, si la crise est encore en cours, nous les mettons à l'équilibre, nous mettons la main comme je vous ai dit, là, vous mettez la jambe qui est au-dessus, vous croisez pour qu'il soit vraiment en état d'équilibre, et nous attendons que la crise se termine.
Oui. Mambala nous appelle de Kinshasa, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Quelle est votre question?
Oui, je voudrais demander à notre invité. Il a parlé que les neurones peuvent être affectés. Hein? Il faut combien de ça pour remarquer la crise de la maladie? Et le deuxième, est-ce qu'il y a-t-il un traitement curatif? Alors, s'il y en a, ça peut prendre combien de temps pour la guérison?
Merci, Mambala. Gomez Ndala, de Colosie, bonjour.
Bonjour, la radio Capi.
On vous écoute.
Ma préoccupation est celle-ci.
Oui.
Je voulais déposer la question à notre invité du jour.
Oui.
Est-ce que les gens en souffrant de l'épilepsie, est-ce qu'ils peuvent mettre au monde des enfants aussi qui souffrent de l'épilepsie?
Merci, Gomez Ndala, docteur Lélo.
Oui, la question de notre ami de Kinshasa, il dit combien de temps il faut pour que je rende compte que la lésion, les neurones est lésés, je crois, c'est ça qu'il a posé comme question.
Oui.
Et puis, il voulait savoir si la maladie guérit ou définitivement, chose comme ça, je pense.
Voilà,
après,
c'est
ce n'est pas la question que vous intéressez pour moi. Voilà, je l'ai dit au départ, nous ne picotons pas tout le monde, ne pique de façon. Donc, de prime abord, surtout chez les enfants. Parce que si nous avons, je sais que leur maman peut demander à leur maman, c'est rare de voir quelqu'un qui n'a jamais présenté une crise d'épilepsie dans l'enfance. Une crise convulsive. Hein, nous appelons pas ça encore en ce moment-là, épilepsie. Parce que dès que nous mettons épilepsie, c'est une étiquette qui dit que la personne souffre d'une maladie chronique. Donc une crise convulsive, c'est un dysfonctionnement électrique transitoire, bref, comme je l'ai dit. Et ça, ça peut arriver surtout chez les enfants pour plusieurs raisons. Donc un enfant qui fait la malaria peut, parce qu'il y a la fièvre et puis il y a l'agression du cerveau, peut convulser une fois. On n'allait pas commencer à expliquer cet enfant des épileptiques, non. Il peut faire de la diarrhée, il va faire des troubles électrolytiques. Et je vous ai dit qu'au niveau du cerveau, là, au niveau du fonctionnement cérébral, il y a des électrolytes qui passent du dehors de la membrane à l'intérieur, et c'est ça qui crée le potentiel qui amène le courant électrique de l'échelle. Donc, pour une raison ou une autre, ça peut se perturber et ça peut se traduire par une crise convulsive. Alors, une seule crise ne suffit pas pour que nous démarrions un traitement contre, pour, même sur les enfants. Nous attendons souvent qu'il y ait d'autres crises. Mais si dans la famille, pour déjà en jambier sur notre deuxième interlocuteur, nous trouvons qu'il y a vraiment des enfants, il y a des frères ou des sœurs ou des dames qui sont épileptiques, ça nous met la puce à l'oreille pour pouvoir mieux les surveiller. Donc ça peut bien être un enfant qui va commencer à convulser. Bon, il n'y a pas d'hérédité déclarée, mais quand on a des parents qui font les crises consommées des frères, mm-hmm. on peut présenter des crises épileptiques comme chez votre frère ou chez votre parent.
Alors Mambala dit qu'il y a un traitement curatif. Hein.
Oui, bon, traitement, chez les enfants par exemple, c'est là qu'on trouve des crises convulsives et qui sont tout à fait essentielles, qui après exploration, nous ne trouvons pas une perturbation quelconque qui puisse justifier cet enfant face de qui, à part les perturbations électroniques et électriques que nous voyons à un examen que nous faisons toujours, l'électroencéphalogramme. Donc nous enregistrons parce que, comme je l'ai dit au départ, le cerveau, c'est une petite centrale électrique qui émet du courant électrique. Et ce courant électrique peut être mesuré.
Oui.
Nous connaissons par tranche d'âge les types de dons qu'on trouve chez les enfants. Donc, les enfants de moins de 4 ans, donc les zones vont de 0 à 4, 4, 7 ans, entre 4, 7 ans, nous appelons ça les zones delta, theta, alpha et beta. Chez les adultes, on trouve souvent les alpha. Chez les enfants, on a les delta, les theta. Alors, si nous faisons cet examen-là, il y a des zones pathologiques que nous, les neurologues, nous reconnaissons. Nous commençons à traiter cet enfant. Et c'est un traitement qui dure au moins 2 ans. Donc, oui. C'est comme ça que je vous ai dit, nous prenons toutes les dispositions et nous devons être sûrs que c'est une question de crise qui commence, par exemple, par la répétitivité des crises avant de démarrer le traitement. Parce que quand nous le démarrons, c'est des enfants que nous mettons sous traitement pendant au moins 2 ans. Donc, nous donnons les médicaments, nous fixons des rendez-vous itératifs et on amène l'enfant. Si nous avons suffisamment de recul, après 1 an et demi, 2 ans, ça dépend que les crises ont disparu, eh bien, nous commençons à réduire progressivement le traitement. Et il y en a beaucoup qui ne sont plus des crises après.
Wow. Bon.
Mais wow. Quand ça arrive chez la personne adulte, ce sont souvent ce que nous appelons des crises symptomatiques. C'est-à-dire qu'il y a une lésion quelque part qui justifie. Donc ce n'est pas la même chose que ce que nous voyons chez les enfants. Il est vrai que parfois chez l'adulte, nous faisons tous les examens, nous ne trouvons pas pourquoi la personne commence à convulser. Mais souvent, ce sont des crises symptomatiques. Donc, ce sont des crises qui se traduisent une souffrance quelque part, un symptôme d'une maladie quelconque qu'il faut rechercher. Chez les personnes âgées, ça peut être une tumeur. Ça dit que ça peut être une malformation. Si des jeunes, par exemple, qui n'ont pas d'antécédents de convulsion et puis à cet âge commencent à convulser, nous nous branchons là-dessus pour pouvoir avoir des moyens techniques pour rechercher une malformation quelconque.
Voilà, on va terminer avec les questions.
Oui, les traumatismes, les accidents, par exemple, des trafics routiers. Ça, c'est le cas le plus fréquent qu'on trouve. Quelqu'un qui a fait un accident de trafic routier, qui a couru la tête, qui a perdu connaissance. Et dans les jours qui suivent les années, il peut tout commencer à convulser. Donc, nous explorons tous ces antécédents de la personne avant de commencer à mettre un traitement et mettre un système de surveillance.
Mutombo nous appelle de Kananga et Freddy Ningo de Gbadolité dans la province de l'Équateur. Mutombo, bonjour.
Bonjour, c'est bien Mutombo de Bayeux, c'est de Kananga.
Ok, allez-y, à quelle est votre question?
Bon, ma première préoccupation, je crois que je vais venir d'y répondre. Alors la deuxième, quelle est l'issue de cette maladie? Donc la personne qui souffre de l'épilepsie et qui se protège mieux, qui vit dans les conditions telles que l'incité déjà énuméré. Est-ce qu'il pourra mourir d'autres maladies ou il finira par mourir à partir de l'épilepsie?
Merci Mutombo. Freddy Ningo, vous êtes à Gbadolité. Bonjour.
Bonjour à l'invité. Je voulais savoir de l'invité si une personne épileptique aura passé toute sa vie avec cette crise, si cette maladie n'est pas à guérir.
Merci. Docteur Lélo.
Oui, bon, je commence par répondre à la question de l'ami de Kananga.
Mutombo.
Oui, Mutombo. Il demandait si, je n'ai pas bien entendu sa question.
Hein. La personne épileptique peut mourir de cette maladie ou d'autres maladies.
Bon, écoute, d'abord, il faut que nous disions que la médecine ne guérit pas toutes les maladies. Hein. Donc ça c'est sûr. Donc il peut mourir de cette maladie ou d'autres maladies, ça c'est sûr.
Oui.
Mais nous, quel est le rôle de la médecine? La médecine a en fait comme rôle d'éloigner le plus tard possible la survenue de la mort. C'est comme ça que nous avons l'hôpital, en réalité, c'est à cause de ça. Mais toutes les maladies ne sont pas... D'abord, on ne peut pas les guérir, mais on peut stabiliser. Quelqu'un qui fait une hypertension, un diabète, c'est une maladie chronique, par exemple. Donc, ils vivent, on soigne le malade, et comme l'épileptique, nous pouvons les soigner toute sa vie, et il peut mourir d'autres choses bien plus tard.
Oui.
Parce que la mort, c'est une loi, elle surviendra soit par l'épileptique, soit par notre animé, il peut bien être suivi correctement et mourir d'autres choses après.
Alors, peut-être qu'il a déjà une question de savoir si la personne épileptique peut passer toute sa vie à vivre avec cette maladie jusqu'à.
Bon, il y a des épilepsies que nous stabilisons après un certain temps. Mais il est vrai qu'il y a des épilepsies, il y a un pourcentage d'épilepsies qui sont rebelles au traitement. Et il y a donc des gens qui vivent toute leur vie avec cette maladie. Mais ils sont minoritaires par rapport à ceux qui peuvent être stabilisés et surtout ceux qui ont commencé le traitement assez tôt. Donc le début précoce du traitement est une garantie pour pouvoir stabiliser cette maladie. Mais quand quelqu'un arrive après avoir été traité à gauche à droite, souvent de façon fantaisiste, parce qu'on dit que ce n'est pas d'abord une maladie qu'on soit à l'hôpital, on va de gauche à droite. Donc quelqu'un qui a planté plusieurs crises, on pense que quelqu'un qui a planté plusieurs crises diminue les chances de voir cette maladie se stabiliser sous traitement.
Docteur Lelo Mananga, neuropsychiatre, merci.
D'accord, merci beaucoup à vous.